Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Comme vous le savez depuis ce matin, si vous étiez avec nous, nous avons commencé une étude sur la façon de tirer le meilleur parti de la Bible, la façon d'étudier la Bible. Et nous allons continuer cette série ce soir, vous donner quelques pistes au cours des 3 prochains dimanches, matin et soir. Nous essaierons de faire de chacun de ces messages une sorte de message séparé et indépendant. Et pourtant ils se mêleront et se chevaucheront un peu au fur et à mesure. Je crois sincèrement que le ministère que j'accomplis ici en chair, dans cette église, n'est pas seulement pour vous enseigner ce que dit la Bible, pas seulement pour vous prêcher l'Évangile, pour vous prêcher la parole de Dieu, mais pour vous stimuler à étudier personnellement l'Écriture. Et, si je n'ai pas réussi à le faire dans une large mesure, j'ai échoué à faire ce que j'aurais dû faire. Si vous profitez du sermon et vous partez ensuite en vous disant « Eh bien, je me reconnecterai avec la parole de Dieu la semaine prochaine, quand je l'écouterai de nouveau. » Alors vous n'avez pas répondu avec assiduité personnelle, et j'ai échoué à accomplir ce qui aurait dû être accompli dans votre vie. Le but de la prédication est certainement de clarifier la parole de Dieu, de proclamer la vérité, et de vous enseigner la vérité. Mais en même temps, cela devrait vous stimuler à vouloir prendre l'épée par vous-même. Profitez de l'énorme opportunité que vous avez de saisir la grande vérité des Écritures. Je vous donne un verset pour commencer, qui soutient cette pensée. C'est 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est une déclaration faite à un jeune pasteur du nom de Timothée. On lui dit qu'il doit être droit, et avec assiduité, se présenter éprouvé à Dieu. Comment peut-il faire ça? En étant un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte. Comment peut-il accomplir cela? En manipulant avec précision la parole de vérité. Il est essentiel qu'en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, il la traite avec soin, la proclame avec précision. Mais ce n'est pas seulement l'enseignant qui est responsable d'étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur qui se doit de discerner ses vérités. Dans le livre des Actes, il y a un grand témoignage concernant un groupe de personnes. Ils s'appellent les Béréens. C'est parce qu'ils vivaient dans une ville appelée Béréa. Et quand l'apôtre Paul est allé là-bas, il leur a prêché la vérité. Il est dit au verset 11 de Actes 17. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voici un groupe de gens qui sont appelés nobles, parce qu'ils ont fait essentiellement ce que Josué 1,8 a dit. Ils ont médité jour et nuit sur la parole de Dieu, afin qu'ils puissent discerner sa vérité et, grâce à cette vérité, mesurer le prédicateur. Ils sont nobles parce qu'ils ont scruté les Écritures avec assiduité, et ils l'ont fait tous les jours avec beaucoup d'empressement, afin qu'ils puissent discerner qui disait la vérité. L'étude de la parole de Dieu est quelque chose qui exige de l'assiduité. C'est un art qui appelle à l'artisanat. Mais cela commence avec des connaissances de base. Comme tout le reste, tout apprenti dans un nouvel emploi ou un nouveau métier commence par la connaissance des bases. Et certainement, en tant qu'étudiant de la Bible, c'est là que nous devons commencer. Nous commençons par connaître le contenu de l'Écriture, et cela appelle une lecture fidèle et attentive de la parole de Dieu. Je vous dirai que si vous êtes un étudiant de la Bible, comme nous l'avons dit ce matin, tout commencera par une vision claire de l'Écriture. J'ai essayé de vous aider avec ça ce matin. Puis cela passera en deuxième aspect, par l'efficacité dans l'étude de la Bible. Et ça, c'est la connaissance de base du texte. Pour commencer, vous devez en connaître le contenu. C'est une question de connaissance de l'Écriture. Je vous avoue que je ne suis pas particulièrement bon lecteur de l'Écriture. Et c'est parce que j'ai un sens très développé de la curiosité, je suppose. Je trouve très difficile de lire les Écritures très longtemps, avant que la curiosité ne m'atteigne. Alors je dois m'arrêter pour chercher ce que signifie ce que j'ai lu. Mais dans vos premières années d'études de la parole de Dieu, vous devez résister en partie à cette curiosité. Sinon, vous vous ferez continuellement embourber, que vous ne pourrez jamais aller plus loin que le contenu de base. Il est important de lire les Écritures afin de comprendre ce qu'elles disent. Ensuite, vous pouvez commencer à chercher ce qu'elles signifient par ceci ou cela. Mais tout commence par la connaissance de l'Écriture. Revenons au chapitre 1 des Proverbes. Au verset 20, nous lisons ceci. « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. À la tête des rues bruyantes, elle crie. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Or l'idée ici est que la sagesse divine est disponible. Elle n'est pas cachée. Elle n'est pas cachée dans une grotte quelque part. Elle n'est pas enterrée dans le sol. Elle n'est pas cachée derrière des codes mystérieux. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui connaît le secret pour la décoder. Elle est plutôt du domaine public, si vous voulez. Elle est dans la rue. Elle est sur les places. Elle crie au milieu des bruits quotidiens, à l'entrée des portes de la ville, qui est l'endroit le plus animé de la ville. C'est là que la sagesse est rendue accessible. Ce que dit l'auteur des Proverbes, c'est qu'elle est accessible. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? En d'autres termes, allez-vous repousser l'accessibilité de la sagesse divine? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science? Et là, il y a un reproche. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Il n'y a aucune raison réelle d'ignorer la vérité de l'Écriture, parce qu'elle est accessible. Elle n'est pas cachée. Elle n'est pas réservée à ceux qui connaîtraient un code secret. Elle n'est pas pour ceux qui peuvent débloquer des mystères cryptés. Elle est facilement disponible pour tout le monde dans la rue. Et Dieu promet même de nous assister dans le processus, déversant sur nous son esprit, afin que ses paroles puissent être connues. Puis viendra bien sûr le jugement. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, comme une tempête. Je regardais un peu sur Discovery Channel l'autre jour un programme qui est parfois curieux pour moi, un programme sur les mystères. Et une partie de leur émission particulière traite des mystères de la Bible. Ils parlaient du mystère du livre de l'Apocalypse hier soir. Et quel que soit le mystère qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, ils se sont perdus dans une confusion tant désespérante. Et ils l'ont fait en examinant toutes sortes de citations ou non-citations de chercheurs d'universités libérales qui essayaient d'expliquer la signification de l'Apocalypse et qui étaient tout à fait incapables de le faire. Puis un observateur concluait que ces mystères sont si profonds et si confus et si ésotériques et si fantastiques et si symboliques qu'aucune personne, même la personne la plus érudite, au plus haut niveau de formation religieuse d'une université, ne pourrait jamais les déchiffrer. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, ils ont tous ignoré l'introduction de base du livre de l'Apocalypse, qui dit simplement ces mots « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie », indiquant que quiconque le veut peut le lire et l'entendre, c'est-à-dire le comprendre. Elle est accessible, cette connaissance de Dieu, à travers sa parole. Ce n'est pas secret, elle n'est pas cachée. Et ceux qui refusent d'accepter ces vérités simples et d'être enseignés par l'Esprit seront jugés par le Dieu qui s'est rendu si clair que, selon Romains 1, tous les hommes sont sans quoi, sans excuse. Dans Osée, au chapitre 4, nous lisons ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. Cela vous semble familier? On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voulez dire qu'elle n'est pas disponible, cette connaissance? La suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Encore une fois, Dieu juge ceux qui se détournent d'une révélation disponible, qu'il a rendue simple et claire. La connaissance de la parole de Dieu est là où tout commence. Cette connaissance est disponible pour celui qui la désire et qui cherche la vérité de l'Écriture. Or, nous ne sommes pas seulement appelés à la connaître, mais évidemment, nous sommes appelés à la fois à la connaître et à la mettre en pratique par l'obéissance. Écoutez ce qui est dit dans Jacques 1:21. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, l'idée est que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Et cela, comme nous l'avons vu dans Josué 1:8, nous rendra prospères et nous conduira à la réussite. Pour la mettre en pratique, nous devons la comprendre. Pour la comprendre, nous devons connaître son contenu. Et nous revenons alors au fait que nous devons lire l'Écriture, afin que nous puissions absorber ce qu'elle dit et commencer à travailler sur ce qu'elle signifie dans ses dires. La Bible contient plus de 250 passages dans l'Ancien Testament et environ 55 passages dans le Nouveau Testament, qui nous exhortent à obéir à tout ce qui est commandé dans l'Écriture. En fait, vous vous souvenez, quand Jésus nous a donné la grande mission dans Matthieu 28:19-20, il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est clairement l'injonction des Écritures encore et encore. En fait, dans Deutéronome 5:29, nous lisons ceci. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Ou dans Luc 11:28, « Bénis, ou heureux, plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, ou lui obéissent. » Jean 14:15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » 1 Jean 5:3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Dans Jean 8, Jésus a dit, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Nous nous souvenons du message de ce matin, verset 47. L'apôtre Paul a dit, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Vous vous souvenez de ce que le psalmiste a dit, « Que sa joie était dans la loi du Seigneur, qu'il la médite jour et nuit. » Et souvenez-vous du psaume 19 où David dit, « La parole de Dieu est plus désirable que l'or, et plus douce que le miel. » Le psalmiste du psaume 40, verset 8 dit, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Nous avons donc ce désir de faire la volonté de Dieu, de l'implanter en nous en tant que croyants. Ce désir est basé sur la connaissance de la volonté de Dieu, qui nous demande de comprendre ce que dit la parole, et ensuite d'être capable d'interpréter ce qu'elle dit et d'appliquer ce qu'elle signifie par ses mots. Le Seigneur a fait des révélations à son prophète Ésaïe, et nous continuons à nous appuyer sur ses affirmations en quelque sorte. Le Seigneur a révélé à son prophète Ésaïe la nature magnifique de son être et l'importance de son jugement. Et Dieu a clairement déclaré que chaque personne se doit d'écouter tout ce que Dieu dit. Et je le répète, ce soir ce que je vous ai lu ce matin, extrait d'Ésaïe 55, sans fioriture, des versets 9 à 11, parce que c'est si important. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Voilà le cycle hydrologique que je vous ai mentionné plus tôt. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins. Ici encore Dieu révèle au prophète que sa parole, lorsqu'elle est reçue et appliquée, produit les effets que Dieu a escomptés. Dans le livre de Cantiques que sont les psaumes, au psaume 138:2, le psalmiste nous dit « Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Il n'y a pas de plus grand témoignage de l'importance de l'Écriture que le psaume 119. Et vous devriez vous familiariser avec le psaume 119. Une des choses merveilleuses à propos de la Bible d'étude, c'est qu'elle va décortiquer le psaume 119 en toutes ses composantes. C'est un long psaume de 176 versets, et chaque verset concerne les Écritures, sauf le dernier, qui est une réponse. Mais il y a 175 versets sur les Écritures, tous décortiqués, afin que vous puissiez comprendre ce que l'Écriture affirme, la concernant. Mais dans presque chacun de ces 176 versets, il y a un accent sur la nécessité de connaître la parole et de lui obéir. Tournez-vous avec moi vers le psaume 119. Évidemment, nous ne pouvons pas lire tous les 176 versets, mais je veux insister sur certains de ces versets qui doivent être mis en évidence, attendu qu'ils soulignent cet appel à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 16. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Et voici le psalmiste qui exprime son amour pour la parole et son plaisir d'y obéir. Verset 24. Tes préceptes sont mes délices, ce sont mes conseillers. Verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Verset 47. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. C'est ainsi que je les mettrai en pratique, et je veux méditer tes statuts. Et le verset 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Au verset 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Et puis du verset 97 jusqu'au verset 104. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Enchanté par la parole, et parce que vous y prenez plaisir, vous la prenez, et quand vous la prenez, vous l'appliquez. Cela affecte tous les domaines de votre vie. Cela vous rend plus sage que vos ennemis, que vos maîtres, que les personnes âgées de toutes les sociétés. Cela vous aide à vous écarter du péché et à avoir du discernement, afin que vous puissiez éviter toute fausse voie. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Verset 113. Je hais les hommes indécis, et j'aime ta loi. Verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. Puis on descend au verset 159. Considère que j'aime tes ordonnances, éternelles. Rends-moi la vie selon ta bonté. Et enfin quelques-uns pour conclure. Verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. 167. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Verset 174. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Vous avez là l'attitude qui doit être appliquée à l'Écriture. C'est ce dont nous parlions ce matin. Quand vous comprenez ce que vous avez en main, et que vous le chérissez plus que l'or, et que vous le considérez comme plus doux que le miel, quand vous vous en délectez, vous commencez alors à percevoir sa vérité. C'est là que commence toute étude biblique efficace. Bénis sont ceux, dit le psalmiste, qui gardent le témoignage de Dieu et le cherchent de tout leur cœur. Et comment un jeune homme purifiera-t-il ses voies en y prenant garde selon ta parole? David dit, de tout mon cœur je t'ai cherché, ne me laisse pas m'éloigner de tes commandements, et ainsi de suite. Nous commençons par nous engager à connaître la parole de Dieu. Je peux vous suggérer un plan simple que vous puissiez suivre. Avec la Bible d'étude, j'ai un plan de lecture de la Bible qui vous permettra de parcourir la Bible en une année. Et beaucoup d'entre vous le font déjà. Mais laissez-moi vous suggérer quelque chose que j'ai utilisé au fil des années et qui m'a vraiment aidé. C'est une façon de commencer à absorber les données écrites de façon maximale et qui vous aidera à comprendre ce que la Bible dit réellement. C'est par là que vous devez commencer. Aucun raccourci pour cela, mais il y a un moyen pour vous d'apprendre simplement. Lisez l'Ancien Testament au rythme avec lequel vous vous sentez à l'aise. Lisez-le tout simplement. Prenez un nombre de chapitres sur une base quotidienne et lisez-les. Et lorsque vous avez terminé, relisez-les et lisez simplement l'Ancien Testament dans l'ordre chronologique. Mais s'agissant du Nouveau Testament, qui nous révèle réellement les mystères cachés à ceux du passé, qui dévoile toute la signification de l'Ancien Testament, le document de la Nouvelle Alliance, vous devez le lire de façon plus répétitive. Et ce que je vous suggère, ce qui a fonctionné dans ma propre vie très tôt, alors que je commençais à comprendre le besoin de connaître l'Écriture, c'était de la lire de façon répétitive. D'ailleurs, voici une petite formule que j'ai suivie et trouvée très bénéfique. Je l'ai découverte pour la première fois dans un vieux livre de James M. Gray, ancien président du Moody Bible Institute, il y a de nombreuses années, sur la façon d'étudier la Bible. En affinant ce processus, voici ce qui a fonctionné pour moi. Prenez un livre de la Bible et lisez-le de façon répétée pendant 30 jours. Voilà comment je fais. Je prends le livre de 1 Jean a 5 chapitres, et je lis 1 Jean tous les jours pendant 30 jours. Il suffit de le lire dans la même version 30 fois de suite. En fait, j'étais tellement captivé par ce livre que j'en ai modifié la règle. Je suis resté sur le premier livre et je l'ai lu 90 jours d'affilée. Mais au bout de 30 jours, je savais ce que contenait 1 Jean, juste à cause de la lecture répétitive. En fait, j'ai commencé à visualiser ma Bible. Et si quelqu'un me demande aujourd'hui ce qui est écrit dans 1 Jean 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, je suis plutôt familier avec cela, à cause de la répétition. Voilà comment notre esprit retient les choses. En fait, si quelqu'un dit, où est-ce que la Bible dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'est facile. C'est dans 1 Jean chapitre 1, page de gauche, colonne de droite, à mi-page. Vous voyez, vous commencez à visualiser votre Bible à cause de la familiarité que vous avez avec le texte au fur et à mesure que vous le parcourez encore et encore. Maintenant, dans le même temps, j'ai résumé chaque chapitre en une phrase et uniquement durant la période de 30 jours. J'ai mémorisé ce sur quoi portait ce chapitre afin que j'imprime dans mon esprit la signification des chapitres et que je me familiarise avec le texte lui-même. Eh bien, au bout de 90 jours, j'ai acquis une bonne compréhension de ce qui se trouvait dans 1 Jean. Je n'avais pas encore entièrement tout compris, je n'avais pas étudié tout cela en profondeur, mais je le connaissais. Et cela a soulevé énormément de questions dans mon esprit. Puis, voulant rester dans le cadre de Jean, je me suis tourné vers l'Évangile de Jean. Or, l'Évangile de Jean a 21 chapitres. C'est trop à avaler en un mois. Alors, je l'ai divisé en 3 sections de 7 chapitres. 7 chapitres. Cela correspond au nombre maximum de chapitres avec lequel vous pouvez travailler en même temps. J'ai lu les 7 premiers chapitres de l'Évangile de Jean pendant 30 jours. Un deuxième groupe de chapitres. Un groupe de 7 pour 30 jours. Et un troisième groupe de 7 pour 30 autres jours. Donc, en 90 jours, j'avais parcouru l'Évangile de Jean, et dans le processus, j'ai écrit un simple petit résumé de chaque chapitre, pour chacun des 21 chapitres. Eh bien, à la fin de ces 90 jours de lecture de 7 et 7 chapitres, j'ai compris ce que contenait Jean, et à ce jour, je peux encore le visualiser, et cela remonte à de nombreuses années, probablement à il y a près de 30 ans. Je me souviens que les noces de Cana était dans Jean 2, et que la femme du puits en Samarie se trouve dans Jean 4, et que Jésus rencontrait ses frères, et leur manque de foi dans Jean 7, et du repas des 5000 dans Jean 6, que Jean 10 est le chapitre sur le berger, que Jean 15 est le chapitre de la vigne, que la prière hautement sacerdotale est dans Jean 17, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jésus dans le jardin est dans Jean 18. Il s'agit juste de familiarité pure. J'ai aussi commencé à réaliser que certaines des choses que je ne comprenais pas dans l'épître de Jean étaient expliquées dans l'évangile de Jean, et que le meilleur interprète des Écritures était l'Écriture elle-même, et j'ai appris cela très tôt. Et c'est pourquoi, quand je vous enseigne la parole de Dieu, j'explique l'Écriture avec l'Écriture, n'est-ce pas? Parce que c'est ainsi que j'ai appris l'Écriture. Et après cela, je suis retourné dans Philippiens, et j'ai lu Philippiens, qui est un petit livre de 4 chapitres. Je l'ai lu durant 30 jours de suite, et je suis devenu familier avec ce qui s'y trouvait. Puis je suis retourné à l'évangile de Matthieu, et j'ai pris les 28 chapitres. les ai divisés en 4 sections de 7, 7 pour 30 jours, 7 pour 30 jours, 7 pour 30 jours, et en 4 mois, j'ai terminé le livre de Matthieu. Maintenant, à ce rythme d'environ 7 chapitres à la fois, passant d'un livre plus court à un livre plus long, en 2 ans et demi, vous aurez fait le Nouveau Testament. Alors, vous allez lire la Bible pour les 2 années et demie prochaines, j'espère. Que diriez-vous de la lire pour que vous vous familiarisez avec elle? Voilà ce qu'on appelle la répétition. C'est ça la répétition. Et dans ce processus, en 2 ans et demi, vous aurez appris qu'il y a des parties de la Bible qui se connectent de façon très évidente, et vous cesserez d'être une vraie bille en concordance. Vous voyez ce que je veux dire? Du style. Vous ne pouvez pas vous souvenir de quoi que ce soit, et ainsi vous vous perdez à travers des concordances inadéquates dans les profondeurs de votre Bible, qui n'a jamais le verset que vous recherchez, parce que vous serez totalement noyé dedans. Or, vous n'avez pas besoin de faire cela avec l'ensemble de l'Ancien Testament. Une grande partie du flux narratif que vous avez lu en tant que récit, son intention et son sens, plein et riche, sont déjà expliqués si merveilleusement dans le Nouveau Testament. Mais vous devez être familier avec le nouveau. Adoptez ce plan de lecture et vous serez émerveillé et étonné de découvrir que vous allez devenir un érudit biblique en 2 ans et demi, alors que vous commencerez à relier l'Écriture à elle-même. Et encore une fois, cela réaffirme l'idée que nous vous avons transmise toute la journée aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a qu'un seul auteur, tandis qu'il y en avait beaucoup qui écrivaient au nom de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu lui-même en est l'auteur. Et avec un auteur transmettant toujours une vérité infaillible et inhérente, il existe une continuité complète. C'est ce que les théologiens appellent « analogia scriptura », c'est-à-dire que l'Écriture est analogue à elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en elle de contradiction. Il y a des difficultés apparentes que nos esprits limités ne peuvent saisir, comme la Trinité ou la mise en parallèle de la volonté humaine et de l'élection divine. Il y a ce genre de problème que nous ne pouvons pas résoudre à cause des limites de l'esprit humain. Mais il n'y a pas en elle de contradiction, parce que le seul à en être l'auteur est Dieu lui-même. J'ai trouvé que cet exercice de lecture de la Bible de cette manière, en seulement 2 ans et demi, m'a donné une grande familiarité avec le contenu de l'Écriture, et c'est devenu la base sur laquelle j'ai construit une compréhension de ce contenu. Et beaucoup des questions que j'avais au début de mon expérience chrétienne ont obtenu une réponse, non pas en lisant des commentaires ou en étudiant des livres de théologie, mais simplement en absorbant le texte même de l'Écriture elle-même. Je vais vous dire autre chose. Je continue à lire les Écritures tout le temps, et comme je continue à les lire tout le temps, je continue à être étonné de ce qui m'est révélé en elles. Il y a une compréhension de base de l'Écriture que la Bible définit comme le fait de la parole. 1 Corinthiens chapitre 3. Il n'existe pas certaines doctrines faites de lait et d'autres doctrines faites de viande. En d'autres termes, certaines choses plus légères et d'autres choses plus lourdes, le lait et la viande, ne décrivent pas des vérités différentes. Ils décrivent la profondeur de ces vérités. Il y a un niveau de compréhension léger comme du lait, et il y a un niveau de compréhension plus profond comme de la viande. Et vous allez du lait au vrai steak, vous plongeant dans l'Écriture, et commençant à percevoir l'épaisse profondeur qui s'y trouve. Mais vous devez commencer avec une compréhension de l'Écriture elle-même, et à partir de là, vous commencez à vous demander « D'accord, je sais ce que dit la parole, qu'est-ce qu'elle signifie par là? Passons du lait à la viande. » Et nous devons nous y intéresser, et nous le ferons quand nous parlerons du processus de découverte de la signification de l'Écriture. C'est ce que nous allons faire, nous ferons cela dimanche prochain. Et je vous montrerai en particulier comment je détermine la signification de l'Écriture. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose dont je dois vous parler ce soir, et c'est très important. Ce matin, j'ai parlé de la condition préalable majeure à une étude biblique efficace, c'est-à-dire votre point de vue sur l'Écriture, n'est-ce pas? Ce soir, j'ai ajouté à cela une autre condition préalable à l'étude de la Bible, qui est que vous connaissiez son contenu. Vous devez y être attaché et apprendre ce qu'elle contient. Il n'y a pas de raccourci. Écoutez bien, les amis. La maturité spirituelle est liée à l'application de la vérité, n'est-ce pas? La bénédiction spirituelle n'est pas quelque chose que vous obtenez d'un claquement de doigts pendant que vous errez simplement à la recherche d'un quelconque éveil. Cela n'arrive pas de cette façon. Ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver, parce qu'un serment a été pour vous un vrai choc et vous a captivé. Dieu peut travailler momentanément dans votre cœur, mais la maturité spirituelle et la croissance spirituelle sont un processus à long terme de l'application de la vérité divine dans votre vie. Il nous appelle à méditer la parole jour et nuit. Il nous appelle à la suivre, à appliquer ce qu'elle contient. Alors, vous commencerez à faire votre chemin prospère et aurez de la réussite. Cela n'arrive pas d'un coup. Cela n'arrive pas comme par magie. Le vrai développement spirituel, la vraie croissance spirituelle, est tout comme la croissance humaine. C'est un processus alimenté par de la nourriture, et cette nourriture est la parole de Dieu. Jésus a dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La sanctification ne se produit pas dans un stade, lors d'un grand rassemblement. La sanctification ne se produit pas dans un camp quelque part où quelqu'un a donné un message qui a saisi votre cœur. La sanctification est un processus de longue haleine, par lequel quelqu'un mûrit jusqu'à ressembler à Christ à travers son attitude de vie et son rapport à la compréhension de la vérité divine. Nous devons donc apprendre ce que dit l'Écriture, et ensuite nous pouvons commencer à faire un effort plus profond pour comprendre ce qu'elle signifie par ces mots, afin que cela la place dans le tissu de notre vie et nous permette de commencer à la vivre. Mais avant de nous intéresser à la façon dont nous pouvons faire cela, laissez-moi vous parler d'autre chose. Nous avons établi cette fondation au préalable. Nous devons avoir une vision exercée de l'Écriture. Nous devons connaître son contenu. Maintenant, au-delà de cela, je veux vous donner une compréhension des conditions requises pour déterminer la signification de l'Écriture. Certaines conditions pour déterminer la signification de l'Écriture. Puis-je vous suggérer que même les non-croyants peuvent avoir un certain intérêt pour la Bible? Je suis toujours étonné de voir pourquoi les théologiens libéraux, qui nient son inspiration, veulent devenir des professeurs de religion ou des professeurs de théologie. Mais ils la nient, bel et bien. Ils ont un certain intérêt pour les Écritures. Il est également possible pour une personne non régénérée, non convertie, non sanctifiée, de lire et de comprendre une partie du contenu de base de la Bible, n'est-ce pas? Ils peuvent lire que Jésus est mort sur une croix. Ils peuvent lire qu'il est ressuscité. Ils peuvent lire qu'il a promis de revenir. Ils peuvent lire qu'il a fait des miracles. Ils peuvent lire qu'une tête de hache flottait. Ils peuvent lire que le Seigneur a séparé la mer Rouge et que les enfants d'Israël l'ont traversée sous la direction de Moïse et que l'armée de Pharaon a été noyée. Ils peuvent lire ça. Mais pour comprendre leur signification avec des implications spirituelles complètes, il y a certaines exigences. Il y a certaines exigences. Première condition, il faut être chrétien. Il faut être chrétien. Ne faites jamais confiance aux compétences d'interprétation d'un non-chrétien. Peu importe qu'il soit théologien libéraux ou qu'il soit dans les sectes, que vous discutiez avec quelqu'un de l'université de Chicago, du département de théologie, qui ne croit pas que Dieu ait écrit la Bible, mais que c'est simplement un haut niveau d'inspiration humaine, ou que vous parliez à un ancien de l'Église mormone. Vous ne pouvez pas faire confiance à leur interprétation de l'Écriture. Ils peuvent la lire comme vous pouvez la lire. Ils peuvent savoir ce qu'elle dit. Et malheureusement, de nombreuses fois, ils savent ce qu'elle dit mieux que les chrétiens, qui ne sont pas aussi assidus à étudier ce qu'elle dit. C'est toujours triste quand un témoin de Jéhovah vient à votre porte et sait où se trouvent les choses dans la Bible, alors que vous ne le savez pas. Mais vous ne pouvez pas faire confiance à leur interprétation. Je vais vous montrer pourquoi. Ouvrez dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 6 est une partie très très importante de l'Écriture. Le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Il signifie par là ceux qui sont en Christ, qui sont croyants. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous avons une sagesse, nous avons une connaissance et une compréhension de la profondeur de l'Écriture qu'ils n'ont pas. C'est la sagesse qui est appelée au verset 7, la sagesse de Dieu mystérieuse. Cela signifie quelque chose de caché. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas quoi crucifier le Seigneur de gloire. Il parle ici des religieux. Je vais vous dire autre chose. Si les dirigeants de cet âge, et les éducateurs de cet âge, et les philosophes, et les psychologues, et les sages de cet âge, comprenaient la vraie sagesse, ils ne rejetteraient pas le Seigneur de gloire qui a été crucifié. Ils n'ont pas de sagesse. Vous souvenez-vous de Jérémie 8:9, le verset que je vous ai lu ce matin. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? L'argument est encore plus frappant dans le verset 9, alors qu'il se réfère à l'Ancien Testament dans Ésaïe 64 et 65. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Vous savez pourquoi ils ne connaissent pas la signification de la sagesse de Dieu? Pourquoi ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que la Bible dit jusqu'à ce qu'elle signifie? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas disponible uniquement pour l'étude empirique. Les yeux ne peuvent pas le voir et l'oreille ne peut pas l'entendre. Ce n'est pas une chose purement physique. Elle ne peut être appréhendée par une étude empirique. Elle ne peut être comprise, objectivement, par aucune application de la logique humaine, ou de la raison, ou de l'intellect. En outre, le verset 9 dit « Elles ne sont point montées au cœur de l'homme. L'homme ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu d'un point de vue extérieur, par des recherches objectives, et il ne peut pas la comprendre intérieurement, par une sagesse subjective. Il ne peut pas la connaître de l'extérieur, et il ne peut pas la connaître de l'intérieur. Il ne peut pas la connaître. Les seuls qui peuvent la connaître, selon la fin du verset 9, sont ceux qui croient. Qui aiment Dieu? Qui aiment Dieu? » Le verset 10 explique pourquoi. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose, les gars. Il n'y a qu'un seul moyen de comprendre la signification de l'Écriture. Elle doit être enseignée par l'Esprit de Dieu. Je ne m'attends pas à ce qu'un théologien libéral trouve la bonne réponse. Je ne m'attends pas à ce qu'un sectaire trouve la bonne réponse. Je m'attends à ce qu'ils trouvent la mauvaise réponse, parce qu'ils n'ont pas les critères objectifs externes pour discerner les mystères de la vérité de la révélation. Ils n'ont pas les critères subjectifs internes pour discerner la vérité de la sagesse de Dieu. Par conséquent, ils n'y ont pas accès. Mais pour nous, Dieu les a révélés par l'Esprit. N'est-ce pas incroyable? À nous, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comprendre la sagesse de Dieu, la sagesse rédemptrice qui se déroule dans l'Écriture, comprendre toute la grandeur de la révélation de Dieu n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Et il donne une illustration de cela au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est juste une petite analogie. Il n'y a qu'un seul composant dans l'être humain qui comprend les pensées d'un homme, et c'est l'esprit qui est dans l'homme. En d'autres termes, c'est votre moi interne qui comprend votre esprit. Votre main ne comprend pas votre esprit. Votre pied ne comprend pas votre esprit. Votre nez ne comprend pas votre esprit. Votre oreille ne le fait pas. Votre œil ne le fait pas. C'est cette partie interne de vous qui comprend votre processus de pensée. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Aucune partie de la création physique ne peut connaître la pensée de Dieu, seulement l'Esprit de Dieu. C'est sa petite analogie. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. N'est-ce pas incroyable? Nous ne sommes pas très nobles et pas très puissants, mais nous savons ce que le monde ne sait pas. En fait, nous connaissons les choses que Dieu nous a données librement, dont nous parlons aussi, non pas avec des mots enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux qui sont enseignés par l'Esprit, et qui combinent les pensées spirituelles avec des paroles spirituelles. Je ne suis pas surpris que les gens dans le monde pensent que nous sommes un peu étranges, un peu bizarres, un peu space. Nous parlons une langue qu'ils ne comprennent pas. Ils ne la comprennent pas du tout. Et ils nous regardent et se demandent, avec nos capacités intellectuelles limitées, comment nous arrivons à comprendre? Comment pouvons-nous savoir des choses qu'ils ignorent? Comment pouvons-nous comprendre des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre? Je parlais à un homme juif l'autre jour et j'ai eu l'occasion de lui donner mon livre sur le pouvoir de l'intégrité. Il a dit, « Eh bien, cela me sera très utile parce que, dit-il, j'ai un gros problème dans ma vie. J'essaie d'étudier l'éthique. J'essaie de résoudre le problème de l'éthique. » Homme brillant, PDG d'un grand conglomérat, un conglomérat de divertissement à Hollywood. Un homme d'une très grande influence et un homme très très brillant et très gracieux. Mais un homme qui était soucieux de comprendre l'éthique. J'ai répondu, « Voilà. Voilà un livre sur l'intégrité, et notamment à propos de quelqu'un dont vous aimerez lire l'histoire. » Un homme nommé Daniel, un homme juif, intransigeant des temps bibliques. Et, vous savez, nous voilà, si petits aux yeux du monde, et pourtant nous comprenons ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas comprendre. Pourquoi? Le verset 14 le dit. et c'est probablement là la clé. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme non converti, l'homme sans l'aide du Saint-Esprit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas simplement qu'il ne les accepte pas. Que sont-elles pour lui? Des absurdités. Il ne peut pas les comprendre. Il ne peut pas les comprendre parce qu'elles sont spirituellement évaluées. Voilà pourquoi vous devez vous rappeler, les amis, quand vous sortez pour présenter l'Évangile à une personne non convertie, à moins que le Saint-Esprit n'éveille son cœur, c'est inutile. C'est inutile parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous n'êtes pas au centre d'une bataille. Vous n'êtes pas dans une bataille intellectuelle, essayant d'avoir plus de poids dans vos arguments qu'eux, afin que vous puissiez convaincre leur esprit de changer. Ce n'est pas une entreprise humaine dans laquelle vous êtes engagé. Vous ne devez rien espérer d'eux. Ils sont morts dans leurs transgressions et leurs péchés, et ils n'ont aucune faculté de comprendre la réalité spirituelle. En fait, leur postulat est que la parole est folie, parce qu'elle est spirituellement évaluée. Mais celui qui est spirituel par opposition à un être animal, qui n'est pas converti, l'être spirituel étant converti est né de nouveau. Ceux qui sont spirituels, qui ont ce nouvel esprit, qui ont la pensée du Christ, qui a une nature nouvelle, évaluent toute chose. Et pourtant, lui-même n'est évalué par personne. Bon sang, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ils ne peuvent même pas nous juger correctement. Le monde ne peut pas nous juger avec précision. Nous pouvons les juger avec précision, parce que nous connaissons la sagesse de Dieu. Ils n'ont aucun moyen de nous évaluer. Ils ne peuvent pas nous comprendre, plus qu'ils ne peuvent comprendre ce que nous croyons. Car qui peut connaître l'Esprit du Seigneur? Mais nous avons l'Esprit du Christ, n'est-ce pas formidable? Bien-aimés, vous n'aurez aucun espoir de jamais comprendre la Bible si vous n'êtes pas né de nouveau, à moins d'avoir cette nouvelle faculté amenée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement recevoir l'Esprit de Dieu, c'est laisser l'Esprit de Dieu travailler dans votre esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vous donne l'Esprit de Christ, afin que vous puissiez penser d'une manière dont vous ne pourriez jamais penser si cela ne venait de lui. Les écrivains bibliques exposent la vérité dans la parole divine. Les personnes non aidées, animales et non converties peuvent lire ces mots. Et elles peuvent essentiellement lire ce qu'ils disent, mais elles ne peuvent pas comprendre ce qu'ils veulent dire. La vérité n'est alors disponible que pour ceux qui sont illuminés par le Saint-Esprit. Martin Luther a écrit « L'homme est comme une colonne de sel. Il est comme la femme de Lot. Il est comme une bûche. Il est comme une pierre. Il est comme une statue sans vie qui n'utilise ni yeux, ni bouche, ni jugement, ni cœur, jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau et converti par le Saint-Esprit. Le mieux qu'un homme non converti puisse faire est de mâcher l'écorce des Écritures, mais il n'atteindra jamais le bois. Et c'est pourquoi il est si stupide de s'exposer à quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Quelle folie! Bien sûr qu'ils vous donneront la mauvaise interprétation. Il y a un deuxième composant nécessaire. En fait, il y en a quelques autres que je devrais aborder la semaine prochaine. Mais je vais vous en donner une seconde maintenant. Et nous avons déjà commencé à en parler. Appelons cela simplement le désir. Le désir. Ouvrez la Bible dans 1 Pierre, chapitre 2. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous devez la désirer. Il y a une vieille histoire à propos de Socrate. Qui sait si elle est vraie ou pas? Mais Socrate était un philosophe reconnu et le sage de son temps. Et il faisait l'envie à tout jeune étudiant qui voulait être l'élève de Socrate. L'histoire raconte qu'un jeune homme est venu à Socrate, qui enseignait au bord de la mer dans un bosquet. Et ce jeune homme est venu à lui, et en aparté a dit au brillant Socrate, « Monsieur, je voudrais que vous soyez mon professeur. Pouvez-vous m'enseigner ?» Socrate lui aurait répondu, « Suis-moi. » Il se tourna et descendit vers la plage, au bord de la mer, avançant dans l'eau, continuant à marcher, jusqu'à ce qu'ils aient de l'eau au niveau de la bouche, jusqu'à ce que la mer se presse contre leurs lèvres. Il se retourna et regarda le jeune homme qui, à présent, se demandait quel genre de leçon c'était. Il mit les deux mains sur sa tête, l'enfonça sous l'eau et le retint. Voulant faire preuve d'un grand respect pour son professeur, le jeune homme fit de son mieux pour rester discrètement sous la surface et retenir son souffle. Après quelques minutes, cela lui était devenu quasiment impossible de rester sous l'eau. Alors il a commencé à se débattre, à le repousser, puis à se tendre. Et Socrate, étant un homme fort, l'a maintenu encore et encore et encore, et selon l'histoire, Il l'a maintenu entre 1 et 2 minutes, ce qui est une longue période, pour finalement libérer l'homme qui se débattait. L'élève a alors jailli de l'eau, a craché de l'eau salée partout et a crié à Socrate « Bon sang, mais qu'est-ce qui vous a pris ?» ou quelque chose du genre. Ce à quoi Socrate aurait répondu « Quand tu voudras savoir autant que tu voudras respirer, je serai ton professeur. » Il marque un point. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Une étude biblique sérieuse et assidue est faite par des gens qui veulent savoir désespérément. Il doit y avoir un certain niveau de désespoir dans l'étude. Et Pierre se préoccupe de ça. Regardez 1 Pierre 2, verset 1. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Le cœur de ce passage est une déclaration. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Ici, il ne parle pas de lait et de viande, comme il était question dans 1 Corinthiens 3. Il donne une analogie simple et la voici. Vous devez avoir le même genre de désir pour la parole qu'un bébé en a pour le lait. C'est une excellente analogie, n'est-ce pas? Quand vous amenez un bébé dans votre maison, un nouveau-né, c'est vraiment tout ce qui compte pour eux, et ils vous préviennent, et ils vous informent sans relâche qu'il est temps pour ce lait. Vous vous souciez de la couleur des rideaux dans leur jolie petite pièce que vous avez arrangée. Vous vous souciez de la couleur de leurs petites bottines et de ce qu'ils portent. Vous vous souciez de mettre un bandeau ou un petit ruban ou autre dans leurs cheveux. Vous tenez à leur acheter un petit pyjama avec des ballons de football, si c'est un garçon. Vous vous souciez de tout ça. Tout ce qui les intéresse, c'est le lait. Donnez-leur du lait. Faites face à leurs besoins. Et donnez-leur en un peu plus. La vie est très, très simple. Et c'est la simplicité que Pierre a dans son esprit, quand il dépeint cette analogie en écrivant à ses croyants dispersés à travers le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont les élus de Dieu. Au cœur des temps difficiles, et même de la persécution, il les appelle à avoir faim, à avoir de l'appétit, à avoir une attention particulière portée sur leur désir de l'Écriture, tout comme un nouveau-né désire le lait. Qu'est-ce qui devrait nourrir ce désir? Plusieurs choses. Tout d'abord, ils devraient se souvenir que la parole est source de leur vie. Voyez le premier mot du verset 1. Donc, cela vous ramène. Vous ramène à quoi? Retour au verset 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes nés de nouveau par la parole de Dieu. Le point étant que la parole de Dieu a eu l'impact le plus profond sur votre vie. L'impact le plus profond sur votre vie. Et si la parole de Dieu est si puissante pour avoir ce genre d'impact sur votre vie, alors vous devriez aspirer à cela. Rappelez-vous que la parole est votre source de vie. Si cela a tellement changé votre vie au départ, souvenez-vous de ce que cela fera si vous continuez à la désirer. Deuxièmement, éliminez votre péché. Rappelez-vous que la parole était la source de votre conversion. Deuxièmement, elle élimine votre péché. Verset 1. Rejetant donc toute malice. La malice, kakia en grec, signifie simplement le mal en général. Mettre de côté tout mal. Et donne quelques illustrations, quelques exemples de mal, comme la ruse. Le mot ruse, dolos en grec, c'est le mot utilisé pour hameçon, ce qui est très trompeur, si vous êtes un poisson, évidemment. Mettez de côté l'hypocrisie, mettez de côté l'envie. Katalalia et la-la-la-lia en grec. Ce sont des mots faits d'onomatopée. Cela ressemble à ce que cela signifie, à savoir calomnier, parler de quelqu'un derrière son dos. Mettez de côté ce genre de choses. Débarrassez-vous du mal dans votre vie. Puis désirez la parole. Qu'est-ce qui motive ce désir? Le souvenir de la puissance de la parole de Dieu comme démontré par votre salut et l'élimination de votre péché. Tant qu'il y a du péché dans votre vie, cela va obstruer votre désir. Cela va complexifier votre désir. Cela va gâcher la pureté de votre focalisation. Cela va vous éloigner de la parole de Dieu. Comme quelqu'un l'a écrit, il y a longtemps dans sa Bible, « Soit ce livre vous gardera du péché, soit le péché vous gardera de ce livre. » Troisièmement, admettez votre besoin. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Admettez votre besoin. Soyez ouvert et honnête, assez pour le crier. Je suis triste quand je rencontre des gens qui sont dans un endroit dans le monde où ils ne peuvent pas trouver d'église, où ils ne peuvent pas trouver d'endroit où ils puissent être nourris de la parole de Dieu, et où ils ont un cœur qui pleure et qui aspire à cela. Vous êtes tellement bénis d'en avoir la possibilité, si vous le désirez. Reconnaissez votre besoin. Pleurez comme ce bébé le fait pour son lait. Poursuivre votre croissance, c'est autre chose. Souvenez-vous de la puissance que la parole apporte à votre salut. Mettez de côté le péché. Admettez votre besoin de la parole. Poursuivez votre croissance en développant en ce qui concerne votre salut. Et le dernier petit point à voir est d'examiner vos bénédictions. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous savez déjà à quel point il est bon de connaître sa parole et d'y obéir. Si vous avez déjà été béni dans l'obéissance par le passé. Souvenez-vous-en et cherchez à obéir à l'avenir. Comment savez-vous quand quelqu'un a ce désir? Comment savez-vous quand quelqu'un a vraiment envie de la parole? Tout d'abord, cette personne l'honore. Elle l'honore. Elle la tient en haute estime. Elle est comme Job qui dit « Je ne me suis pas retiré du commandement de ses lèvres. J'ai serré par devers moi les paroles de sa bouche plus que le propos de mon cœur. » Version Darby. Ils sont comme Jérémie qui a dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Ils sont comme le psalmiste qui a dit « C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Quand je trouve quelqu'un qui honore la parole, je vois son désir. Et enfin, un amour pour la parole, une profonde affection pour sa vérité. Cela se manifeste en voulant parler de la parole, en voulant enseigner la parole, en voulant entendre la parole enseignée, en voulant lire des livres qui dévoilent sa vérité. » Comme nous le lisons encore et encore dans le psaume 119. « Oh, comme j'aime ta loi! Je prends plaisir à ta loi. C'est ma joie. Je m'en réjouis. » Les gens qui ont ce désir honorent la parole. Ils la respectent. Ils l'exaltent. Ils y obéissent. Ils l'adorent. Ils ont une profonde affection pour ses vérités. Ils préfèrent en parler plutôt que de n'importe quoi d'autre. Ils préfèrent poursuivre leur compréhension de la saine doctrine plutôt que toute autre chose. Ils se battent aussi pour cela. Ils appartiennent à Jude 3. Ils luttent pour la foi, une fois pour toutes. Ils iront à la guerre. Ils iront au combat pour sa véracité. Ils iront se battre contre ceux qui attaquent sa vérité. C'est si précieux pour eux. Quand vous honorez la parole, et quand vous aimez la parole, vous vous battez pour elle. Parfois, les gens vous diront, « Eh bien, vous devriez être artisan de paix. Vous devriez être plus conciliant. Vous devriez peut-être être plus aimant. » Et si c'est de traits de personnalité qu'ils parlent, peut-être ont-ils raison. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, si vous l'aimez et l'honorez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous battre pour elle. Et puis j'ajouterai encore que les gens qui désirent la parole la proclament aussi. Ils la proclament. Ne me dites pas que vous avez ce désir de la parole. Ne me dites pas que c'est plus doux pour vous que le miel et plus précieux que l'or si vous ne la proclamez pas. Parce que, quoi que vous aimiez le plus, vous en parlez, n'est-ce pas vrai? Quoi que vous aimiez le plus, vous en parlez. Je vois tous ces autocollants pour pare-choc. Mon enfant était l'étudiant d'honneur à tel ou tel endroit. Il doit y avoir beaucoup d'enfants qui réussissent, parce que c'est sur beaucoup de pare-choc. Les parents veulent proclamer irrésistiblement leur amour pour ce gosse. Je les comprends. Vous voyez plus souvent ce genre d'autocollant que celui qui proclame « Jésus-Christ est mon sauveur ». Je comprends le côté humain de cela. Je comprends que quand un jeune homme tombe amoureux d'une jeune fille, il ne parle que d'elle. Je comprends quand un jeune garçon dans un match de baseball tape la balle, permettant un coup de circuit. C'est la chose la plus importante dans sa vie, sans doute pour son père aussi, pendant un certain temps. Je comprends. Mais parfois, ils trahissent un ordre de priorité vraiment confus, n'est-ce pas? Les gens qui aspirent à la parole comme un bébé aspire à son lait ne peuvent s'empêcher de la proclamer. Ils ne peuvent pas être restreints. Ça sort juste comme ça. Et puis enfin, ils la personnifient. Ils la personnifient. Ils ne sont pas conformes à ce monde, mais ils sont transformés par la parole. La parole habite en eux richement. Voir Colossiens 3. Elle prend le tissu de leur vie, commence à les façonner, se manifestent dans leur façon de vivre. Vous regardez leur vie et vous ne voyez pas de dents qui grincent, d'austérité, de nervosité, essayant de se frayer un chemin à travers cette obéissance. Ils ont un calme, une douceur, un naturel. Et vous pouvez les surprendre à n'importe quel moment de leur vie. Ils y auront toujours la même attitude, parce que la parole a pris le dessus et a façonné leur caractère personnel. Comment savez-vous quand vous avez un désir, un vrai désir? Vous honorez la parole, vous l'adorez. C'est une source de guerre pour vous à l'occasion. Le sujet de conversation le plus familier sur vos lèvres lorsque vous la proclamerez. Elle apparaîtra dans votre vie même involontairement. Je dis toujours, quand quelqu'un est spirituellement mûr, ses réponses involontaires sont pieuses. Cela fait tellement partie intégrante de leur vie qu'ils n'ont même pas à y penser. Bien, c'est assez pour ce soir. Il y a 3 autres prérequis ajoutés à ceci, et nous le ferons la prochaine fois. Prions. Comme vous pouvez le voir, avant de prier, il est difficile pour moi d'arrêter de parler de ce sujet, parce que c'est une telle passion de mon propre cœur. Et je veux seulement espérer, et vous devez prier pour moi, que je serai capable de partager tout ce que je veux dire au cours des 2 prochains dimanches. Père, merci pour ce soir. Merci pour ces chers et précieux frères et sœurs qui sont venus parce qu'ils ont faim de ta parole, parce qu'ils veulent la comprendre, ils veulent connaître sa vérité, ils veulent la vivre, ils veulent faire de leur chemin un chemin prospère, une réussite, ils veulent avoir de la joie dans l'obéissance, ils veulent apporter la gloire à ton nom. Merci pour ceux qui, en vertu de leur salut, de leur conversion et de leur nouvelle naissance, ont pour enseignant l'Esprit de Dieu. Ô Dieu, puisse-t-il avoir un fort désir, comme un nouveau-né pour le lait, un fort désir de connaître ta parole, un désir tellement essentiel qu'ils en soient assidus et l'étudient comme un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte. Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand trésor. Nous te remercions de pouvoir le comprendre. Tu nous l'as fait comprendre. Nous désirons cette compréhension afin que nous puissions la vivre, connaître la plénitude de ta bénédiction et t'apporter l'honneur. Au nom de ton Fils. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.